Cuisine que vous allez suivre est une rediffusion.
Ding dong. Ding dong.
La bande passante.
La bande passante.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
Parce qu'animal on est mal, jadis et naguère, il est entré dans le rêve comme un guerrier et sa matrice pour revivre au royaume de Siam, là où il y a une route. Le langage oublié dans la vallée de la paix, il n'a jamais eu rien à raconter, même en prisonnier l'inutile. Dans l'atelier du crabe, Manitoba ne répond plus. Un oiseau s'est posé, lumière sur l'opération Aphrodite. Auteur, compositeur, interprète, orchestrateur, écrivain, photographe, peintre, poète, voyageur polyglotte, septuagénaire depuis peu, plus d'un demi-siècle de carrière, sans véritablement d'appui médiatique de par sa volonté. Il est ce soir sur RFI dans la bande passante. Bonsoir Gérard Mancé.
Bonsoir.
Vous faites le constat que vous avez 15 métiers différents. Lequel est le plus satisfaisant actuellement ?
Alors, peut-être qu'on va les mettre une sorte d'agglomérat. Et je dirais, voilà, il n'y en aurait qu'un. Donc ça se répond, il y a des répercussions. Donc il y a un seul métier, quoi. C'est celui d'artiste quelque part. Polyvalent peut-être, mais artiste.
Vous nous dévoilez aujourd'hui Opération Aphrodite, votre 21e opus, que vous présentez comme un disque anti-concept, album débuté par un mi mineur et un ré, qui fait se télescoper un auteur du 19e, un illustrateur, des acteurs, un politique du 20e et un musicien du 21e siècle. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique sphérique à tous les étages.
Ma collection particulière, ce sera peut-être la dernière, comme une poignée de coquillages. Sur le bambou de son visage. Ma collection particulière, pouvez-vous voir ici ou là, mystérieux itinéraire. Mais mon couleur de chocolat. Ça y est, le vermeil, voyez comme elle était jolie. Tu ne mangeais pas un safran. Un anneau de laiton poli dans la narine ou dans l'oreille, voyez comme elle était pareille. À toute cette tête de Cali que j'ai trouvé sous un chalis. Collection particulière, c'était pas la terre à délire, c'était Java, c'était délire. Voyez comme on mangeait la vie. C'était Bouddha, c'était Kouchner, c'était tout ce que personne n'a dit. Les couloirs toujours déserts, quand les avions vides au-dessus de la nuit. À ma collection particulière, j'en recevais des caisses entières, le jade de la fille d'Azulie, avec de gentils yeux de pierre. Quelque chose dans la paupière qui chatoyait comme un rubis qu'on n'a jamais revu depuis, avec quelques tambours de pluie. Quelques tambours de guerre. Cette collection particulière qui valait pas même un paquet n'a rien fait de mieux depuis. En forme de cône, en forme de sphère, de toutes les sortes de phalanstères, n'a rien fait de mieux sur terre. C'était Bouddha, c'était Kouchner, c'était tout ce que personne n'a dit. Et les couloirs toujours déserts.
Et les couloirs.
Les fourmis dans une fourmilière, les termites dans une termitière, à la flamme d'une bougie.
À la flamme.
À la flamme. Son village, son village ont installé l'éclairage. Avant, il n'y avait pas de lumière. Voyez comme elle était jolie. Elle ne joue plus, elle étudie. Elle ne chante plus de la même manière. À la porte du paradis. Adieu la vallée des rubis. Sera peut-être infirmière ou ministre dans son pays. Ministre. Ma collection particulière. Ma collection.
Collection particulière, Gérard Manset. La genèse de ce projet commence par l'entrée dans l'une de vos pièces où se trouve votre assortiment personnel d'ouvrages d'anticipation de la collection Fleuve Noir. La suite, c'est vous qui nous la comptez ?
Ben, la suite, c'est que je passe dans une autre pièce où là, il y a toutes les œuvres, enfin toutes, un certain nombre d'œuvres classiques dans le livre de poche avec les gouaches de l'époque. Et donc, il me traverse l'esprit que j'ai aussi Aphrodite de Pierre-Louis. Et alors, bon, ben, là, les deux se télescopent ou se superposent.
On n'a pas donné le nom de la première, du premier ouvrage sur lequel vous tombez.
Alors, de Brantôme, illustration de Brantôme.
Brantôme,
ouais. Oui, alors, ça s'appelle Opération Aphrodite. C'est le numéro, je ne sais plus, 46, 45, 60. Mm-hmm. Et des 280 premiers numéros qui sont tous illustrés sur fond noir par René Brantôme. Magnifique, c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai toute cette collection, plutôt que pour les textes qui sont quelquefois un tout petit peu, j'allais dire insipides, c'est pas le mot, parce qu'ils sont, ils sont représentatifs d'une époque où la science-fiction faisait rêver, beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, et où tout était possible entre les robots, les plantes carnivores, les espaces interstellaires. Bon. Et voilà. Et donc, le deuxième ouvrage, c'est le Aphrodite de Pierre-Louis, qui, là, est un hommage à la femme, à la beauté, à la séduction, à l'Égypte antique, enfin, des Ptolémées. Et extraordinaire, je me permets de mélanger tout ça. Et voilà, j'ai tous les droits, je suis le démiurge.
Vous êtes heureux.
Oui.
Pierre-Louis, je fais une parenthèse, qui est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 31 décembre 1909 en qualité d'homme de lettres.
Extraordinaire, il a eu la Légion d'honneur quand même.
Puis promu officier le 14 janvier 1922. Vous, vous êtes fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2014. Comment avez-vous reçu cette distinction ?
Oh, c'est une anecdote tout à fait... anodine, j'allais dire, mais enfin très chaleureuse. C'est un ami, je peux dire un ami, enfin quelqu'un de très proche, qui vient de passer académicien et qui a trouvé peut-être qu'il était justifié de me faire mettre sur une liste de... Alors ils m'ont mis directement officier alors que j'aurais dû être je sais pas quoi. Bon, enfin voilà.
Nous n'analyserons pas vos textes car c'est suffisamment flagrant, beau et simple sans aller chercher des explications. Ce sont vos déclarations, précisant aussi que vous pleurez lorsque vous entendez certains passages. Lesquels, par exemple ?
Que je pleure ? Oui. Lorsque j'entends certains passages de...
Oui.
Quoi ? De mes textes ?
Oui, de ce disque.
Alors, peut-être... Oui, alors, pas de mes textes, de ceux de Pierre-Louis. Là, je pleure. Non, mes textes me font rarement pleurer. Je suis quelquefois assez fier en réentendant, par exemple, tout à l'heure, Collection particulière. J'avais même oublié qu'il était sur cet album. Je suis très heureux qu'il y soit. Et je me disais qu'il y avait comme ça, très bizarrement, des sortes de pics ou de saillies. C'est vrai qu'il y a quelques titres que j'ai faits qui m'emplissent de, je sais pas, de fierté, oui, qui sont absolument uniques. Alors celui-là en fait partie. J'en ai quelques autres en tête. Par exemple, il y a eu Fauvette. J'étais très 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 fier dans cet album qui s'appelait Manitoba d'avoir fait ce titre, Fauvette, qui est une sorte de saga. Mais bizarrement, des titres majestueux comme Lumière ou comme d'autres, j'ai moins cette fierté. Je me sens plutôt pas dépossédé, mais c'est comme si quelqu'un les avait fait à ma place ou m'avait incité presque violemment à les faire, enfin une sorte de contrainte. Alors que les autres, ce sont des petits joyaux que je vais chercher moi-même dans des sortes de galeries et je les exhume. Alors donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je m'en suis complètement écarté. Non. Ah oui, les larmes aux yeux. Mm-hmm. Oui, pour non, c'était à la relecture ou à la réentente de certains textes de Pierre Louis. Oui.
Eh bien, partons 1 minute 25 sur la côte nord égyptienne.
Lumières apparurent. Portes éclairées où se tenaient accroupies de jeunes femmes nabatéennes, entre deux lampes rouges qui éclairaient d'en bas leurs têtes chaperonnées d'or. Dans le lointain, ils entendaient grandir un murmure d'abord, puis un retentissement de chariots, de ballots jetés, de pas d'ânes et de voix humaines. C'était la place de Rakotis, où se concentraient, pendant le sommeil d'Alexandrie, toutes les provisions amassées pour la nourriture de 900 000 bouches en un jour. Ils longèrent les maisons de la place entre des monceaux verts, légumes, racines de lotos, fèves luisantes, paniers d'olives. Chrysis, dans un tas violet, prit une poignée de mûres et les mangea sans s'arrêter.
Que c'est beau.
Gérard Moncey, la place de Rakotis. Rakotis, oh là là. Le nom original d'Alexandrie par la comédienne Chloé Stéphanie, au timbre très clair tombé du ciel, je confirme vos dires. Pourquoi elle ?
Elle, disons que je la connais, que j'étais très ému de son timbre de voix, toujours rieur, juvénile, dont j'ai quelques traces sur mes répondeurs téléphoniques, qui à chaque fois m'émeut de la même manière, et qui représentait tout à fait la Chrysis telle que je l'ai imaginée. Ça n'était pas du tout prémédité. C'est par hasard, je lui ai dit un jour de venir au studio, ayant cette idée en tête, j'aime bien faire des petits essais rapides, tout ça. Et puis voilà, bon, on a rigolé, chahuté, c'était merveilleux. Elle est très exceptionnelle en ce sens qu'elle a gardé ce que beaucoup de jeunes filles ou jeunes femmes aujourd'hui ont perdu, c'est-à-dire ce que représente cette opération Aphrodite en hommage à la juvénilité féminine d'antan, ancestrale, qui tend à être perdue pour des blue jeans, des chewing-gums, du Internet et autres préservatifs, crevés ou non, et grotesques de cette époque.
De quelle manière sont venues les mélodies qui illustrent les lectures des textes de Pierre Louis, comme ici avec ses sonorités moyen-orientales ?
Ben, j'ai d'abord dit à l'arrache, comme ça, ayant eu cette idée en retrouvant l'ouvrage, mais un certain nombre de textes que j'avais cochés, alors j'ai été branché un micro, je me les suis lus. Je pensais à l'origine faire intervenir un certain nombre de voix différentes, de gens que j'aime bien, d'amis proches, qui ont quelquefois des très belles voix. Je ne pensais pas du tout d'ailleurs à une voix féminine, ou alors peut-être à... Bon, en tout cas... Non, à des gens comme Bardot, je sais, même beaucoup plus âgés que n'était la Chrysis du récit, mais ou peut-être jeunes, je ne sais pas. J'avais en tête des Juliette Gréco, des choses comme ça, des voix très personnelles, mais très uniques. Et je ne pensais pas du tout à quelque chose de frais comme a été Chloé après. En tout cas, je ne sais plus où j'en étais, je ne sais plus quelle était la question.
Eh bien, c'était de savoir comment ont été choisies les mélodies qui ont accompagné
les mélodies. Ces textes. Oui. Alors donc, ayant fait ces textes tout seul, me les réentendant, après avoir fait venir Chloé et ayant décidé des textes qu'elle ferait, elle, et de ceux que je ferais moi, j'ai J'ai considéré que je ne pouvais pas mettre ces voix simplement sans un accompagnement musical, qu'il fallait les soutenir par quelque chose. J'ai donc construit très vite un certain nombre d'harmonies à l'orgue et comme ça au clavier, toujours voilà, en solitaire. Et puis, il m'est venu l'idée qui semble tout à fait élémentaire et simple après coup, mais c'est toujours avant. Les gens ne mesurent pas à quel point, quelquefois, dans la création, il y a un gouffre, un vide. On est au-dessus du torrent qui est à 3000 mètres en dessous et il faut le remplir. Alors voilà, donc cette idée toute simple de prendre quoi ? L'instrument de l'époque, le luth. Donc j'ai appelé, j'ai trouvé un luth magnifique que je remercie aujourd'hui encore en direct. Je l'ai remercié d'ailleurs sur le cover. Et qui joue, je crois, avec Enrico Macias, qui a été d'une douceur, d'un charme, et qui est venu avec la flûte.
Ça s'appelle Kamel Labassi.
Voilà, exactement.
Gérard Mancé est passé par les Arts Déco, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et lui ?
Premièrement, j'ai été aux Beaux-Arts. Je suis resté 2 ans.
Vous avez quel âge, là ?
J'avais 18 ans.
18 ans.
Et quand j'ai quitté les Beaux-Arts, le père Cormon m'avait appelé. Pour me dire, c'est pas la peine que tu fasses la troisième année. Parce qu'il trouvait que je peignais avec des couleurs trop vives. Alors il a voulu savoir exactement ce que j'avais dit. Ben, j'ai dit que vous peignez avec des terres. Non, c'était le massier qui m'avait vendu. Et là, vous avez dit d'autres choses. Ben, je voulais que je vous le dise, maître. Et vous peignez avec de la merde. Il a rigolé, du reste. La troisième année, je ne l'ai pas faite, puisque je suis parti soldat.
De quoi ?
Yves Frémion, qui recevait René Brantôme pour un entretien le 24 octobre 1978. René Brantôme qui signe les illustrations d'Opération Aphrodite. En quoi, pour vous, est-il l'égal de Magritte ?
Ben, non, mais légal, je ne sais pas, ou tout au moins équivalent, oui, quelque part. Ça veut dire que c'est plastiquement magnifique, ce sont des gouaches d'une intelligence et d'une innovation, mais comme beaucoup d'illustrateurs de l'époque savaient le faire. Encore une fois, au XIXe siècle, tous les notaires de province écrivaient de façon magistrale. Eh bien, il y a une cinquantaine d'années, ou une trentaine, ou une quarantaine, tous ceux qui faisaient de l'illustration gouachée, qui avaient fait ce genre de travail et d'études, étaient en général très brillants. Et Magritte n'est ni plus ni moins que ce genre d'artiste.
Alors, le son n'était pas très bon parce qu'il date de 1978.
Oui, on ne comprenait pas ce qu'il racontait.
Il racontait qu'on lui avait demandé de ne pas finir sa troisième année, que ce n'était pas la peine, qu'il n'avait pas besoin de continuer.
Mais pourquoi ? Parce qu'il était, il était assez bon pour passer directement au travail.
Je crois qu'on n'appréciait pas trop son travail, justement.
Ah
à
bon ?
Ouais.
Bon.
Vous connaissiez des choses sur René Brantôme, vous, sinon ?
Non, je ne connaissais rien sur René Brantôme. Je connaissais ses illustrations de la série Fusée de... Voilà.
Depuis cette Grèce antique, de l'eau a coulé sous les ponts, car le temps est une fontaine. Voici Galaxy sur RFI.
Il est venu s'asseoir par là. Il a juste tourné sa page. Il a rangé son livre. Il ne faisait rien dans la vie. On lui demande comme il se nomme. Il a simplement souri. Et puis il a simplement dit que le temps qui s'écoule tout doucement, jour de joie, jour de peine. Il y avait 2 petits enfants, il les a serrés contre lui. Puis tout en marchant, le voilà parti. Ah, c'était un homme entre 2 âges, comme on en voit par ici.
Galaxy, Gérard Mancé, chez qui la chanson vient d'un bloc. Il doit être prêt à l'accueillir lorsqu'elle est choix de la stratosphère. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, Opération Aphrodite suite. Restez dans notre univers sur RFI, celui de la bande passante.
La bande passante,
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Musique. Sandrine Straram, Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de celui dont on dit qu'il est le plus énigmatique des chanteurs français, culte, un ermite, l'homme revêche, une légende aussi inclassable que discret, délibérément anonyme, un monomaniaque, un obsessionnel, un interprète correct, expressif, froid, méthodique, déterminé, distant, qui n'est pas dans les singeries de la pop musique ni dans l'introversion, ça c'est lui qui le dit, qui a trop d'idées en tête, qui veut tout conserver, ce qui est problématique, qui parle peu à la presse, rarement à la radio, jamais à la télé, et pour qui le grand drame est la lucidité. Rebonsoir Gérard Manset.
Rebonsoir. Je rebondis sur le mot revêche, tout sauf revêche, je crois. Enfin bon.
Je pense aussi, mais non, c'est ce qu'on dit sur vous. Ce nouvel opus, ces jeux de mots, Jean se marrait et Simone s'ignorait. Si l'on en fait de même avec votre patronyme, cela peut donner Gérard Manset. Une hypothèse, sachant que pour vous, le menteur, c'est celui qui colporte. Le mensonge est conscient, lucide. En ce sens, il est éminemment répréhensible. Mais aussi, le mensonge est partout. Fin de citation. Qu'a pu vous inspirer votre nom ?
Alors ça, j'y ai absolument jamais réfléchi. Peut-être que dans des cours de récré, on a dû quelquefois me faire comme ça une sorte de petit jeu de mots. Mais non, j'ai jamais... Oui, ça me sort complètement de la tête, là.
Opération Aphrodite, c'est votre nouvelle production que nous partageons entre lecture et chanson à partir du roman de Pierre-Louis, Aphrodite de 1896, le tout illustré par des dessins de René Brantôme, période 50-60, mais sans aucun passéisme. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique antique et artistique à tous les étages.
Bâtisseur de pont, comme une poule pond, un artiste se donne, comme un arbre ses fruits, peut-être s'enfuit. Dans les bâtisseurs de pont, dans du papier crépon, dans les gorges sans fond, tandis que la verdure, comme un arbre son fruit et peut-être s'enfuit. Lorsqu'il apprend un jour, alors que tendre était la nuit, que le monde a changé. Dans l'ombre et dans la suite, il se demande, l'a-t-on aimé ? Lorsqu'il a dit la floraison, plus évidemment belle que la destruction des maisons et que la solitude règne. Alors le bâtisseur répond, cette peine a un nom. Tout décline, tout s'enfonce. Pas la politique le pire, mais il y en a qui respirent. Quand tous les jours on nous assène un empêchement nouveau, qu'on rétrécit les pièces, qu'on multiplie les trous, les pièges, le mensonge est partout, mon frère, ma sœur. Dans cette affirmation qu'au lieu de la douceur, ah pourquoi pas les matraques, les lois, mais pas celles que l'on croit, pas celles. Du limbago, de la démago. Mais oui, du limbago, de la démago, parce que les sociétés secrètes, quel poison qu'elles secrètent, non, une antériorité dont on doit hériter, rien d'autre, pas le reste, pas de toutes ces sortes de vestes pour porte-manteau, dans la cacophonie de l'épiphanie perdue, credo irrattrapable de cette modernité sous les cartables. Par la complexité dans l'harmonie du respectable, allez, on dresse la table, on dresse la table. Le poisson a trois yeux dans nos rivières malades, mais certains sont heureux. Parfait produit de l'époque, tout délétère, où va se poser le joker, dire stop, qu'on se désaltère et qu'on leur mette un coup d'alter. À ces penseurs de l'adultère, ces philosophes de la philosophie perdue, Arturo, lui, César, tous nos grands généraux, venez nous prêter main forte pour éclipser, oui, c'est ça, faites-les renoncer à gouverner la terre. Gouverner la terre. Allez, bâtisseurs de pont, comme une poule pont. Un artiste se donne comme un arbre sans fruit. Le bâtisseur. tisseur de pont comme le mouton conton ne cesse de fleurir pourtant dans cette coupe que l'on tend. Il va cracher sa vie, le saviez-vous? Maudit pour des siècles entiers, et taraudé des nuits entières, tandis que d'autres se sont servis. Le bâtisseur de pont, comme un arbre ses fruits, ne s'est pas posé la question. Ah, je pleure sur notre lys la fleur qui depuis Charlemagne a su fleurir, qui a peur, qui tremble sur sa tige, que la publicité et le dénigrement peut-être. Et le dénigrement peut-être que la publicité fustige, et qu'il fusse fleur ces lys, et qu'elle fustige. Je me reprends, je me répands dans la prière, où sont nos fiacres, Balzac, la belle évaporée, Ronsard, tout ça est avalé, fini, jeté au lion, mais la faute à personne. Ne m'en veux pas, on t'a sommé de te taire, tous délétères. Tandis que le printemps, l'été, dans l'onctuosité du rêve et la ponctualité reviennent. Mon frère, que Médusa Voltaire retourne tant, frère de Lampedusa, aux cheveux rouges, aux mains, aux bras, que le reste paupérisa. Et dans ce peuple nu, Lampedusa, mon frère, à qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Mon ami, ma sœur, songe à la douceur. Quand la démographie tient lieu de géographie, où tout serait rose, un monde où tout serait rose, tourné vers la métempsycose. On mangerait des fruits qui seraient pas saturés de glucose, un chemin dans le paradis. Un monde où j'en se marrerais, Simone Signoret. Un monde où j'en se marrerais, et Simone Signoret. Mais vous ne l'aimez pas, vous le rejetez, ce bâtisseur de pont, ce bâtisseur d'été. Puis les mains dans le dos peut-être interpellé. C'est lorsqu'il établit un pont, architecte des ligatures, que son souci n'est pas d'être conforme, d'être secouru par la forme. Le bâtisseur de pont, comme la poule pond, comme le mouton conton, ne cesse de fleurir pourtant. Dans cette coupe que l'on tend, il va cracher sa vie, le saviez-vous? On le voit demeurer dans ses pensées perdues. Maudit pour des siècles entiers, taraudé des nuits entières. Tandis que d'autres se sont servis, le bâtisseur de pont, comme un arbre ses fruits, ne s'est pas posé la question. Où le recevrait-on? Son âme s'enfuit, son âme alors s'enfuit.
Comme un arbre, ses fruits. Gérard Manset. Lorsque vous délivrez au public votre matériel, comme vous l'appelez, que ressentez-vous?
J'ai très difficile d'avoir une réponse claire. De toute manière, je n'y réfléchis jamais. Non, peut-être de la fierté quand même. Non, j'ai le droit. Un trouble certain, là, de réentendre les 8 minutes de... Effectivement, comme un arbre, ses fruits. Je me demande comment on peut être construit de cette façon-là, arriver à extraire dans une époque aussi superficielle, je ne sais pas quoi. Non pas que je sous-entende que ce texte n'est pas superficiel, j'ai trouvé que c'était une succession de lieux communs quand je l'ai fait. Mais je l'ai voulu très doux, apaisé. Mais j'ai le droit aussi d'énumérer des lieux communs, parce qu'il arrivera un temps, je crois qu'on y est d'ailleurs en littérature et en tout, où on ne fait, ou pour un créateur, on ne peut plus faire qu'énumérer des lieux communs, puisque tout a été dit en amont. Donc peut-être qu'il reste la manière peut-être sympathique ou antipathique, dur ou souple ou aimable de dire quelque chose qui a déjà été dit. Hein. On peut prendre Sophocle, on peut prendre Zénon, là que je cite. Non, je ne le cite pas d'ailleurs, mais enfin voilà, on lit l'Iliade et l'Odyssée, tout y est. On lit l'enseignement du Bouddha selon les textes les plus anciens. Tout est déjà là. Tous les philosophes n'ont rien inventé. Donc, en quoi aurais-je à inventer quoi que ce soit?
Avec tout ce matériel que vous avez produit depuis 1968, vous vous sentez comme un maçon de la chanson?
Ah, peut-être plutôt comme un architecte, oui. Comme un scientifique. Comme un archéologue et un scientifique.
Qu'attendez-vous en retour?
Bon, alors là, c'est encore des questions difficiles, personnelles, qui relèveraient plus du divan qu'autre chose. Je ne peux pas me plaindre. J'ai eu des contrats très valorisants, avec des gens que j'aimais bien, réitérés quasiment de façon systématique depuis maintenant, oui, 45, 50 ans. Donc, non, j'ai pas de. C'est dans un autre domaine parallèle que je pourrais revendiquer des choses que je n'ai pas eues ou que j'ai vues passer sans pouvoir les attraper au vol. Mais c'est un autre chapitre.
Comment vous placez-vous dans le paysage musical français, Gérard Manset?
Ben, j'espère que je ne m'y place pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a une trentaine d'années, enfin, si on voulait faire court, enfin, vraiment, si, encore une fois, ça n'est pas craché dans la soupe, je ne me sens pas concerné réellement. Heureusement que je ne me sens pas concerné, parce que les gens ne savent pas à quel point tous les albums qu'ils entendent sont faits par un aréopage d'intervenants. Et, là où moi je suis seul, où je suis effectivement responsable de mon petit tintouin personnel. Donc, pour avoir des choses un peu similaires ou qui se rapporteraient à des gens auxquels je serrerais la main, ce qui n'empêche pas que j'ai des amis dans ce métier, hein, mais qui sur le plan artistique, auxquels sur le plan artistique je serrerais la main, on se rapprochera strictement des auteurs-compositeurs. Et alors, des auteurs-compositeurs qui ont souffert, qui ont écrit. Alors, ça va être Léo Ferré, ce sera peut-être Brel, évidemment, toujours les mêmes noms reviennent, mais ce ne sera pas Gainsbourg, qui a écrit très peu de choses, qui a fait de briques et de broc avec les autres. Ce ne sera pas peut-être Alain Bachung, un petit peu sur la fin quand je l'ai connu, mais finalement, il avait une très belle voix, il avait une personnalité éminente, mais je suis très loin de la scène, très loin de... J'aurais plutôt à me rapprocher de littérateurs, quoique aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup à citer. Bon.
Si le terme légende revient vous concernant dans la chanson, elle est une légende dans le cinéma français. Nous venons d'en parler.
C'est parti, là?
Oui.
C'est une femme. C'est une femme qui fait de la résistance. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je suis incapable de parler des personnages pendant que je les fais. Je peux pas en parler avant, je peux pas en parler... pendant. Et puis après, quand c'est fini, j'ai plus envie d'en parler.
Et pendant le temps du tournage, vous avez peur d'en parler? Vous avez peur qu'il vous échappe si vous en parlez trop?
J'ai peur d'ouvrir des portes qui doivent rester très secrètes pour moi, enfin entre moi et moi-même, pas de les ouvrir pour les autres, mais de moi me poser des questions, à la faveur de vos questions, de m'en poser à moi, qui doivent venir. C'est une espèce de chimie interne que je veux pas, à laquelle je veux pas toucher.
Quand vous rentrez à la maison le soir, vous pensez encore à votre personnage?
Bien sûr.
Parce que vous êtes tourné le lendemain.
Même quand je n'en suis pas consciente, j'y pense. Enfin, c'est une chose très mystérieuse.
En 1969, Jean-Pierre Melville réalisait le film L'Armée des Ombres, l'occasion pour Céline Sasson de rencontrer Simone Signoret entre deux prises, qui avait du mal à parler de ses personnages et qui n'en parlerait pas finalement. Gérard Manset, est-ce que vous êtes habité en permanence par votre matériel?
Habité par mon matériel?
Ouais.
Je ne m'étais jamais posé cette question, mais peut-être que oui, c'est vrai. Évidemment que je marche dans la rue, j'ai des choses qui me reviennent, que je dois refaire, corriger, qui ne sont pas sorties, des romans, des récits, des photos. J'ai tout un univers, oui, plastique, très très important. J'ai des malles partout remplies de tas de choses. Donc probablement habité par mon univers, oui, mais je dirais plutôt habité par un univers de la poésie qui m'entoure, environnante, la lumière, les arbres, les oiseaux, les mésanges. Je suis très ami avec les mésanges à tête noire, par exemple. Enfin bon, voilà, on va pas...
Vous avez convié deux artistes disparus à ce projet Opération Aphrodite. Léos Carax s'est déjà emparé d'une partie de votre matériel dans Holy Motors en 2012. Qui vous honorerait chez les illustrateurs, dessinateurs ou romanciers contemporains en s'accaparant quelques-unes de vos compositions?
Il y a quelqu'un que j'estime, c'est Enki Bilal, bien sûr. J'aimais beaucoup Moebius qui n'est plus là. Il y a quelqu'un que je trouve absolument admirable, mais tout le monde le trouve admirable, il est succulent. C'est... le nom m'échappe, il va me revenir, enfin... Ouais, c'est un peu compliqué là, parce que si il ne me revient pas, c'est Saint-Pé, voilà, bien sûr. Mm-hmm. Saint-Pé, mais voilà, il fait l'unanimité, Saint-Pé. C'est Danette, on se lève tous pour Saint-Pé. et puis quoi d'autre ? Non, sur le plan littéraire, je connais très peu de choses. Je suis beaucoup, beaucoup plus versé vers le 19e ou le 18e, d'ailleurs, mais surtout le 19e siècle. Je m'arrête à Malraux, que j'aime encore et énormément d'ailleurs.
Qui vous a remis un prix ?
Oui, bon.
Illustrateurs, poètes, romanciers vous ont inspiré, mais cet anthropologue, ethnologue aussi.
À l'occasion de mon 80e anniversaire, le Musée de l'Homme avait bien voulu me dédier une exposition qui a eu lieu dans un étage inférieur. Et dans le plan de l'exposition, il y avait la reconstitution de la façade d'une maison indigène de la Colombie-Britannique, des maisons de planches qui sont très richement décorées de peinture. Alors on avait construit des panneaux, et on a fait venir un peintre français, on lui a donné un modèle et on lui a demandé de recopier. Bon, le peintre s'est installé là-dedans comme un post-impressionniste se serait installé devant une bouteille de vin et trois pommes. Et il s'est mis à peindre ça de chic, avec élégance, mais sans se soucier beaucoup des proportions, des rapports entre les volumes et autres. Là-dessus ont débarqué les Indiens, c'était je crois... les Indiens Haïda qui sont revenus en pirogue. C'était, je crois, l'avant-veille de l'ouverture de l'exposition. Ils sont entrés, ils ont dit, mais ça, c'est pas possible. Rien de ça. Ça correspond à rien de chez nous. Et nous allons tout refaire. Et je les ai vus se remettre au travail avec des règles et des compas. Alors les hommes de science, ouais. N'est-ce pas ? C'était pas le peintre français, c'était eux.
L'auteur, entre autres, de Triste Tropique en 1955, que vous faisiez revivre en musique en 1991, Claude Lévi-Strauss, ici la même année, aux côtés de Bernard Rapp. Qu'admirez-vous chez Lévi-Strauss, Gérard Manset ?
La concision, j'aime beaucoup dans certains orateurs. Il y a quelqu'un qui me fascine aujourd'hui, qui me fascinait plus il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais c'est Finkielkraut. Parce que quand on le voyait dans des interventions télévisuelles, Christ crucifié au demeurant, mais se crucifiant lui-même, mais je veux dire, on voyait l'intelligence en marche. On le voyait réfléchir, les mots avaient du mal à sortir tellement les choses... était voilà, construite en amont, un peu d'ailleurs comme dans l'inspiration, quand je dis que les choses me viennent. Alors je le voyais, lui, un peu en proie à ce même travail phénoménal de quelque chose d'autre qui passe à travers lui pour dicter. Alors ça s'appelle l'intelligence aussi. Et dans Lévi-Strauss, on voyait ça. Et je veux citer, si on a le temps encore en quelques minutes, un très beau portrait que j'avais vu un jour sur Arte il y a une dizaine d'années, qui est repassé il y a quelques années, d'un entretien qui avait été fait dans un jardin qui peut-être était le sien. Il a à peu près, je sais pas, une soixantaine ou une 70 années, je sais pas, enfin il est sur la fin de sa vie. Alors il est allongé dans l'herbe et il raconte d'où lui est venu. Alors on lui demande de raconter comment il a conçu Triste Tropique. Alors il dit quelques mots un peu décousus, il a fait ça très jeune, bon, il pensait jamais s'en servir, puis il a ressorti ce texte plus tard, bon. Et puis il en vient au structuralisme, comment la chose lui... Alors, et il arrache une feuille ou une fleur, et il se met à lui parler, à expliquer à l'intervieweur, là. Et alors il dit, alors je ne vais pas refaire, mimer, mais il dit un truc complètement décousu, mais tellement beau, et on le suit dans sa pensée, dans la pensée à la fois structurée et à la fois échevelée, et voilà, c'est tout, je suis en admiration. C'est la beauté pure.
Gérard Manset, qui parlait de crucifié tout à l'heure.
Après un instant de recueillement, Phrasylas toussa quelque peu, mit sa main droite dans sa main gauche, leva la tête, haussa les sourcils et s'approcha de la crucifiée, que secouait sans interruption un tremblement épouvantable. « Bien que je sois, lui dit-il en maintes circonstances, opposé aux théories qui veulent se dire absolues, je ne saurais méconnaître que tu gagnerais, dans la conjoncture où tu te trouves surprise, à être familiarisé d'une façon plus sérieuse avec les maximes stoïciennes. Zénon, qui ne semble pas avoir eu en toute chose un esprit exempt d'erreur, nous a laissé quelques sophismes sans grande portée générale, mais dont tu pourrais tirer profit dans le dessein particulier de calmer tes derniers moments. La douleur, disait-il, est un mot vide de sens, puisque notre volonté surpasse les imperfections de notre corps périssable. Il est vrai que Zénon mourut à 98 ans, sans avoir eu, disent les biographes, aucune maladie, même légère. Mais ce n'est pas une objection dont on puisse arguer contre lui, car du fait qu'il sut garder une santé inaltérable, nous ne pouvons conclure logiquement qu'il eût manqué de caractère s'il se fût trouvé malade.
Quel point commun dans les écrits de Pierre-Louis et aujourd'hui, Gérard Manset ?
Point commun avec quoi ? Avec moi ?
Non, entre l'histoire d'aujourd'hui d'Aphrodite et ce qui se passe aujourd'hui.
Ah non, aucun point. Et ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui.
Dans l'actualité dans le...
Non, dans l'amour, dans la façon d'aborder l'amour. Dans...
Bah, strictement rien. Mm-hmm. Tout est perdu depuis longtemps. Mais heureusement qu'il en reste des traces dans certains écrits. Bah, le Lys dans la vallée aussi, enfin partout. Cette délicatesse, cette intelligence, ce survol admirable des sentiments et des sensualités. Bon, enfin, je vais pas...
Avez-vous fait parvenir un exemplaire d'Opération Aphrodite à votre fille cadette qui vit en Asie ?
Oui.
Et si oui, qu'en a-t-elle pensé alors ?
Ben, je ne sais pas trop si elle a pensé sur ce genre de sujet. Elle s'occupe elle-même de ses enfants. Elle est brillante, elle est très belle. C'est une Aphrodite d'ailleurs, encore très juvénile, invraisemblablement juvénile. Mais on parle rarement de ces choses-là. De même que moi, je n'ai jamais en famille parlé de ce que je faisais, donc...
Il y a 2 ans, vous confiez qu'avec l'album « Un oiseau s'est posé », une revisitation, néologisme manséen, revisitation de votre matériel. Le Manset de 2014 pouvait phagocyter le Manset de 1994, 1984, 1982. « Je suis aux anges, je suis aux anges », ajoutiez-vous. Que dites-vous du Manset 2016 ?
Ben, qui peut phagocyter tout le reste aussi, oui, il a remis... Non, je suis très content de ce Aphrodite, parce que oui, c'était une sorte de jalon qui manquait, on ne peut pas savoir avant qu'il existe, mais une étape, quoi. Il y a eu l'Orion, il y a eu Lumière, il y a eu des choses comme ça, Matrice, bon, voilà, maintenant il y a Opération Aphrodite, et je suis très heureux surtout d'avoir été entouré, de m'être entouré moi-même, comme ça, de la peau des différents lions en question, mais de ne pas être seul dans l'histoire.
Un an durant, vous avez tout lu ce que l'on peut lire au sujet d'Aphrodite. Si elle avait sonné à la porte, vous auriez été prêt à l'accueillir. Imaginons la scène, que lui diriez-vous ?
Alors j'ai écrit, il y a une version Fnac, dans laquelle le bonus track n'était pas audio, mais j'ai fait une nouvelle. Et donc je vous suggère d'essayer de vous la procurer.
Merci.
Warner n'en a pas, mais elle n'est vendue qu'avec les exemplaires Fnac.
Je l'achèterai.
Et donc il y a une très jolie nouvelle qui raconte effectivement ces circonstances. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai. Et donc j'assiste à tout ça.
Je ne comprends jamais les allégories. Expliquez-moi, Gérard Manset, qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est la fin de l'album, donc ce sont quelques mots qu'il faut attribuer à Pierre-Louis. Et donc ça se termine après une très belle scène où Orphée ne comprend pas que la lionne ne le reconnaisse pas. Et donc cette histoire se termine puisque c'est Démétrios qui, parlant à Chrysis après enfin avoir accédé au désir de Chrysis, parce que là c'est Chrysis qui est demandeuse, doit-on dire aujourd'hui. Et donc... dans l'histoire qu'il lui conte, à l'aube, il lui dit « ça se termine comme ça, je ne comprends jamais les allégories, explique-moi bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire ?»
Merci infiniment, Gérard Manset.
Merci. La chevelure était éclatante et profonde, douce comme une fourrure, plus longue qu'une aile, souple, innombrable, animée, pleine de chaleur. Elle couvrait la moitié du dos, s'étendait sous le ventre nu, brillait encore auprès des genoux en boucles épaisses et arrondies. Ce n'étaient pas les cheveux lisses des Syriaques de la cour, ni les cheveux teints des Asiatiques, ni les cheveux bruns et noirs des filles d'Égypte. C'était ceux d'une race arienne, des Galiléennes d'au-delà des sables.
Quand nous aurons quitté cet affreux soleil africain, tu me conduiras vers ta source. Là, tu chercheras une roche polie et tu graveras dans la pierre ce que tu avais écrit sur la cire. Les 3 mots qui sont notre joie.
Thank you.
bientôt, il refusa même à leur donner ce contentement et cessa de jouer par nonchalance. Toute la forêt fut triste. Mais les morceaux de viande et les fruits savoureux ne manquèrent pas pour cela. Devant le seuil du musicien, on continua de le nourrir et on l'aima davantage. Le cœur des bêtes est ainsi fait. Or, un jour qu'appuyé dans sa porte ouverte, il regardait le soleil descendre derrière les arbres immobiles, une lionne vint à passer près de là. Il fit un mouvement pour rentrer, comme s'il craignait des sollicitations fâcheuses. La lionne ne s'inquiéta pas de lui et passa simplement.
Je suis désolé de vous couper. Gérard Mancé, Orphée Final, magnifique. Je vous invite à vous procurer ce disque. Merci à Pierre Vallée, Romain Massé. Entrez dans la bande via RFI.fr, RFIMusique.com ou les réseaux sociaux. Dans 4 minutes 30, le journal. Mais juste avant, nous vous laissons dans les bras d'Orphée et de Gérard Mancé. Entrez dans le rêve. Gérard Mancé était rediffusé dans la bande. Demain, à découvrir ou redécouvrir aussi la spéciale Catel. Opération bande passante permanente sur RFI.fr, RFIMusique.com ou les réseaux sociaux. Le journal à suivre. Salut.